Soy guerrero, mis padres el amor, mi escudo el humor, mi hogar la coherencia.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences.
La liberté.
Chers auditeurs de Tranche de vie, avec moi aujourd'hui, Jean-Pierre Martin, qui s'intitule « Paysan maraîcher ». Jean-Pierre Martin est aussi facilitateur en permaculture. Son association s'appelle « Le bonheur est dans la graine » et il prodigue des formations, des conseils pour la permaculture qu'il pratique depuis un certain temps, comme il va nous l'expliquer. Jean-Pierre, merci d'avoir répondu à notre invitation pour nos auditeurs de Tranche de vie. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'agriculture maraîchère pratiquée suivant les méthodes de la permaculture ?
Eh bien, bonjour d'abord et merci de m'avoir invité. Oui, l'agriculture pour moi, c'est le jardin, le retour à la terre, c'est l'aboutissement d'une tranche de vie, quoi. J'ai commencé mes premières années de vie en vivant chez un oncle et une tante qui étaient maraîchers dans les années 60. Là, c'était dans la région parisienne. Ces personnes-là étaient maraîchers donc, autour de Paris. Donc autour de Paris, c'était vraiment des plaines maraîchères. Donc chez eux, j'ai découvert, j'ai vécu dans ce milieu, quoi, nature, hein, vraiment nature, où à cette époque, les produits chimiques n'existaient pas. Et ils travaillaient naturellement. J'ai commencé comme ça, mes premières années, quoi. Et ensuite, un long parcours ailleurs, qui m'a complètement éloigné de la terre. Et il y a une vingtaine d'années, je suis arrivé ici en Aquitaine. Une très belle nature, quoi. Et avec un homme qui prenait sa retraite en tant que maraîcher et qui m'a proposé « Est-ce que tu veux prendre la suite ?» Et moi, sans hésiter devant ce magnifique panorama, j'ai dit oui. Ouais, j'ai dit oui et puis je me suis lancé, sans hésiter.
Vous êtes dans quelle région ?
Alors moi, je suis au sud de Bergerac, dans le Lot-et-Garonne, vraiment à la limite du département d'Ordogne et Lot-et-Garonne.
Vous tombez dedans très tôt, vous vous éloignez de l'agriculture, et en particulier de l'agriculture maraîchère, région d'Achères, là, les fameuses, la ceinture maraîchère de Paris, et vous y revenez, mais vous y revenez après avoir fait quoi ?
Beaucoup de choses. Alors, j'ai d'abord voyagé, j'ai aussi passé beaucoup de temps à l'étranger pour la rencontre. J'avais besoin de rencontrer des personnes. Ensuite, j'ai fait des métiers. J'ai travaillé dans l'industrie automobile, dans l'industrie textile, dans l'imprimerie. J'étais fonctionnaire. J'étais dans l'enseignement. J'ai fait plein de choses, quoi. Plein de métiers et qui m'ont fait énormément bouger aussi, quoi. J'ai énormément voyagé de par mon travail. Et peut-être justement, c'est ce que ce retour à la nature m'a permis de m'enraciner, de trouver un petit peu là mes racines, de me poser. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était une période de ma vie où j'avais besoin de ça. Et ces 20 ans-là, passés dans les jardins, à la terre, m'ont permis de me retrouver, de voir un petit peu qui je suis et ce que je veux, ce que j'ai envie d'être.
Même si votre première expérience de maraîcher se faisait dans un cadre qui était plus proche du bio que ça n'est maintenant, qu'est-ce qui a déterminé votre orientation vers un maraîchage bio et puis vers la permaculture quand vous vous êtes installé en Nouvelle-Aquitaine?
Pour moi, il n'y avait pas de compromis possible, quoi. Quand j'ai commencé ce travail-là de maraîchage il y a 20 ans, pour moi, il était clair que ça ne pouvait être qu'en bio parce que c'est dans mes principes de prendre soin de moi, de prendre soin de mes enfants et je ne voyais pas produire des légumes avec des produits chimiques qui allait nourrir d'autres personnes, quoi. Moi, je me vois pas manger des légumes, produire des légumes et manger s'ils sont empoisonnés. Pour moi, utiliser des fongicides, pesticides, herbicides, pour moi, ce sont des poisons. Et il n'était pas question que j'utilise ces produits et que je les amène sur les marchés, les proposer pour que les gens s'en nourrissent. Si je produis un légume, je veux qu'il soit d'une meilleure, de la qualité la meilleure, parce qu'on doit se nourrir de bonnes choses, quoi.
Alors, à la base, votre conscience écologiste, elle s'est forgée dans ce que vous avez vu au cours de vos voyages ?
Ah, tout à fait. Ouais, je pense de tout à fait. Déjà parce que par mon origine d'avoir vu ma famille travailler de cette manière, quoi. Travailler avec le cœur, leur âme, voilà. C'était des gens qui étaient courageux. Et puis oui, les rencontres dans ma vie, dans mes voyages, ont fait que prendre soin, quoi. Prendre soin des autres et prendre soin de moi-même, c'était évident que je travaille en agriculture biologique. Et donc ça, depuis le début, donc 20 ans, donc agriculture, là j'étais un peu, c'était pas facile au début, pas de formation, j'ai pas voulu faire ma formation non plus agricole, je me suis lancé, je suis passé donc du jardin, des petits jardins que je faisais, 100 mètres carrés, 300 mètres carrés, à là me retrouver avec 3 hectares et demi à gérer. Donc il a fallu quelques années de travail quand même acharné, quoi. Le boulot, c'était pas facile, quoi. C'était dur, quoi, pour produire, voilà. Et pour moi, c'était ça, quoi. C'est-à-dire, même si j'étais en bio, mais il fallait que je produise. C'est dans cette réflexion un petit peu d'une société où produire. Ça n'a pas été facile. Et puis rapidement, j'ai senti que là il y avait fausse route parce que produire en chercher toujours la production, ça veut dire que ça m'obligeait à ne pas écouter mon rythme biologique, ce que moi j'étais vraiment, quoi. C'est-à-dire que j'étais toujours en train de me forcer. Du coup, en quelques années, fatigue physique, hernie discale. Donc blocage, opération, difficulté relationnelle avec mes enfants aussi, avec mon épouse. On faisait 4-5 marchés par semaine, donc on passait beaucoup de temps à l'extérieur, dans le travail. Donc du coup, au niveau relationnel, au niveau du lien, c'était compliqué. Donc tout ça, je finis un jour par le comprendre et me dire « non, ça va pas, quoi ». Ça va pas, je suis pas dans le juste là quelque part.
Parce que votre aventure, ça a été une aventure familiale. C'est-à-dire que vous avez entraîné votre famille dans le choix que vous avez fait du retour à la terre. Mais comment s'est faite la rencontre alors avec la permaculture, c'est-à-dire avec ce que vous allez nous expliquer, ce que c'est que la permaculture, hein. À la fois c'est un système de pensée et puis des méthodes qui sont quand même assez particulières.
Oui, alors déjà pour dire comment... ouais, c'est ça. J'ai entraîné ma famille, toute ma famille, dans cette aventure-là du jardin. Oui, ça a coincé, hein, ça a coincé, parce qu'avec les enfants, il y avait moins de temps. S'ils voulaient me voir, il fallait qu'ils aillent au jardin. Je travaillais tard le soir, je commençais tôt le matin. Avec mon épouse, on passait, à l'époque, on passait énormément de temps, elle sur les marchés, moi au jardin. Il y avait la communication commençait à être difficile du coup. Chacun tirait de son côté pour être bien, quoi. Et ça finit par craquer puisque au bout de quelques années, on s'est séparés. Les enfants, c'était difficile. Donc, et puis, il y a 4-5 ans de ça, une de mes filles aînées est venue me voir et m'a dit « Ouais, moi, j'aimerais bien travailler avec toi. » Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit « Ok. » Mais je me suis dit « Ouais, j'ai pas envie qu'elle souffre. » Quelle est cette douleur que moi j'ai eue au départ de se faire du mal, parce que c'est pas facile, l'agriculture n'est pas facile, quoi. C'est un métier qui peut être très contraignant, quoi. Et donc j'ai cherché, je me suis dit on peut travailler dans la légèreté, on peut travailler dans le simple, on peut travailler d'une manière qui soit respectueuse de nous-mêmes et des autres, et puis de la terre et des légumes, quoi. Ça, je le faisais déjà puisque j'étais en bio. Le fait de respecter un mode de culture qui soit sain, quoi. Maintenant, c'est comment, pour celui qui travaille dans les jardins, comment se respecter et être bienveillant par rapport à soi. Donc là, j'ai repris mes bouquins, un petit peu voilà ce que j'avais lu. J'ai retrouvé Fukuoka, Masanobu Fukuoka, donc le fondateur, pour moi, qui est le fondateur vraiment de la permaculture. C'est un Japonais qui, dans les années 40, qui était pourtant un scientifique, a décidé de faire un retour à la Terre. C'était un monsieur qui était... voilà, un jeune homme à l'époque qui avait fait cette réflexion de dire qu'on peut faire simple. En observant la nature, on peut aussi s'allier à elle et produire des bonnes choses, produire en quantité et en même temps être bien. Donc voilà, donc j'ai relu ce fameux livre de Masanobu Fukuoka qui s'appelle « La révolution d'un seul brin de paille », qui est pour moi vraiment une bible là, dans mon changement d'optique dans l'agriculture. Et aussi une autre personne qui m'a beaucoup aidé, c'est Dominique Soltner, qui est un technicien, qui est un scientifique et un technicien aussi agricole. C'est un monsieur qui doit avoir dans les 70 ans, 75 ans maintenant, quoi, qui a été formateur et qui a développé cette méthode de travail en lasagne, qui est utilisable et utilisée en permaculture.
Vous pouvez préciser un petit peu la notion de travail en lasagne, parce que là, vous abordez des choses... très diverses. D'une part, l'idéal de simplicité et de complémentarité qui fait partie de la culture traditionnelle japonaise, et puis quand même des techniques qui ont été mises au point, comme celles que vous évoquez. Alors qu'est-ce que c'est que la technique en lasagne ?
Alors voilà, quand ma fille est arrivée, j'ai dit voilà, on va arrêter de travailler avec les machines déjà, quoi. Donc plus de tracteurs, plus de grosses machines, plus de motoculteurs. On va essayer de travailler le plus simplement possible, sans bruit aussi, puisque les machines font du bruit. Donc comment faire simple ? Donc Dominique Soltner, ce qu'il propose, c'est justement ce travail en lasagne, c'est-à-dire que on va partir d'un sol nu, une pelouse par exemple, et sans utiliser de machine, on va laisser joindre de la nature elle-même, de ce qui se passe dans la nature, pour transformer ce terrain et le rendre adéquat et prêt pour y mettre des légumes. Alors tout simplement, on part donc d'un terrain enherbé, on va amener des cartons, on va poser des cartons dessus. Et on va mettre, après des cartons, on peut mettre une couche de fumier, on va trouver de la paille ou du foin pour couvrir, on va mettre des tontes, on va y amener des feuilles qu'on va récupérer dans les forêts. Voilà, et on va faire donc ce que j'appelle, ce que Soltner appelle donc des lasagnes, c'est-à-dire des couches successives, superposées, de matières différentes, qu'on va laisser un certain temps et qui vont se transformer grâce à la pluie, grâce aux intempéries, quoi, et grâce à toute la faune, voilà ce qui se passe dessous, tout le vivant qu'il y a dans la terre, hein, qui va travailler. Il y a les vers de terre, il y a les micro-organismes, il y a les bactéries qui vont transformer toutes ces matières qu'on a ramenées. Et au bout de quelques mois, on s'aperçoit que en déplaçant ça, on se retrouve avec un sol qui est complètement travaillé, sans avoir utilisé d'outils ou de machines, quoi. Ça s'est fait vraiment naturellement. Et de là, on va pouvoir semer, on va pouvoir planter d'une manière facile. Ouais.
Ça, c'est un idéal qui peut être applicable à des exploitations familiales, mais qui est aux antipodes. Du productivisme, des grandes surfaces en monoculture. Et donc, comment est-ce qu'on peut imaginer que des techniques comme ça soient étendues à l'ensemble d'une société, d'un pays ? Il y a un autre paramètre qui intervient quand même, c'est les grandes variétés dans le substrat, dans le sol, qui existe d'un milieu à l'autre ou d'une région à l'autre.
Oui, c'est une méthode très simple, donc qui peut être appliquée aux particuliers. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qui permet de simple, d'une manière simple, on peut le faire dans son jardin, dans un petit potager, on peut le faire sur un rond-point dans un village, on peut le faire sur des terrains communaux qui peuvent être partagés. Moi je l'ai fait. Alors moi j'ai commencé mon aventure maraîchère, c'est sur 3,5 hectares, quoi. C'est quand même pas rien. C'est pas une petite surface, quoi. Hein. Et donc, en choisissant cette voie de la permaculture, quoi, j'ai voulu garder ce côté production, parce que voilà, quoi, depuis des années, j'amène mes légumes sur les marchés locaux pour nourrir des familles, quoi. Hein, et donc, je voulais continuer ça, quoi, hein, d'une autre manière, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez sur une surface plus petite. Vous avez obtenu des produits de meilleure qualité, ou plus beaux, ou plus gros, et le reste de votre terrain a été reconquis par la forêt, et ça vous a offert des ressources complémentaires.
Alors oui, en premier temps, j'ai donc réduit ma surface de culture, donc, hein, je suis passé de à peu près 2 hectares, puisque bon, en bio, il y a ce système de rotation qui est utilisé, qui est obligatoire, nécessaire, quoi, hein, pour régénérer du sol. Donc j'ai réduit, et je suis passé à peu près à 5000 m² au niveau des productions de légumes, donc en mettant en place donc des bandes permanentes, des buts permanents, mais par système de lasagne, quoi, hein, j'ai mis ça en place, et sur ces 5000 m², je produis quasiment autant que ce que je produisais avant sur 2 hectares, quoi, hein, puisque là, les légumes sont en permanence, donc il peut y avoir des associations de légumes, c'est-à-dire que les légumes vont sur une même plate-bande être ensemble, d'accord,
comme dans des agricultures traditionnelles, comme celle du Mexique, avec l'association de la courge, du haricot et du maïs.
Exactement, c'est ça, quoi. On peut très bien continuer à faire ça. Voilà, c'est ça, ouais. Et sur le reste du terrain, sur les 2 hectares et demi qui sont disponibles, déjà, c'est continuer à faire d'autres parcelles de plate-bande, de lasagne, quoi. Et c'est aussi, pour moi, c'est une source de richesse, de matière. Il faut des feuilles, il faut du foin, il faut de la paille, etc. Donc là, donc ça m'a permis de laisser l'herbe pousser sur des parcelles pour pouvoir y mettre aussi des engrais verts, c'est-à-dire de la luzerne et du trèfle que je vais faucher régulièrement et que je vais utiliser soit en verre, soit en sec pour pouvoir pailler, pour alimenter mes plates-bandes. C'est pour enfouir, disons, ça va s'enfouir naturellement, quoi, avec le temps, quoi. Mais ça m'a permis aussi de semer des céréales, du blé, orge, avoine, seigle, etc., qui me permettent d'avoir du grain, mais qui me permettent aussi d'avoir de la paille, puisque pour le paillage, on utilise beaucoup de paillage en permaculture. Donc du coup, voilà, quoi, j'utilise quand même toute cette surface de terrain, mais d'une manière différente, quoi.
Dans ce qu'on lit sur la permaculture, on lit que les animaux peuvent être associés à la démarche. Ils apportent des compléments, soit sous forme de déjection, soit sous forme évidemment de produits comme les œufs. Est-ce que vous avez associé des animaux à votre démarche ?
Alors dans un premier temps, nous avions, quand j'ai dit nous, c'est-à-dire au moment où on travaillait vraiment en famille, quoi, nous avions des animaux, donc ce qui nous permettait, oui, déjà de pouvoir se nourrir, et ensuite d'utiliser, oui, effectivement, les fumiers, les déjections des animaux, quoi. Les animaux font partie, voilà, de la nature, et je pense que c'est important collaborent, qu'ils soient sur ce lieu aussi. Bon, j'ai fait le choix depuis quelques années de plus avoir d'animaux sur mon terrain, pour des raisons pratiques, parce que je travaille seul, quoi, et voilà, pour réduire ma charge de travail, quoi.
Et donc, c'est pas un choix philosophique.
C'est pas un choix philosophique, non. Et par contre, bon, j'utilise du fumier, mais c'est donc du fumier que je vais chercher chez des collègues qui ont des animaux et que je ramène sur mon terrain, quoi.
Moi, il y a une question là qui me taraude un petit peu. Comme vous le savez, il y a plus de la moitié de la population du globe maintenant qui vit dans des villes. Dans des pays comme le nôtre, c'est plus de 80%. Est-ce que la permaculture a supposé que la société fasse un virage à 180 degrés pour choisir cette démarche est envisageable dans ces conditions?
Ouais, pour moi, je pense qu'il est vraiment très important qu'il y ait une réflexion, mais une réflexion vraiment solidaire, commune, sur notre nourriture, quoi. Nous avons d'espace. Il y a beaucoup d'espace autour de nous, même dans les villes. On s'aperçoit que il y a des ronds-points, il y a des jardins qui sont pas utilisés, qui appartiennent à des particuliers. Dans certains villages, il y a des terrains communaux. Il y a des parcs dans des villes qui pourraient être utilisés pour y mettre des cultures. Il y a ce mouvement là qui existe depuis des années, des incroyables végétaux justement qui mettent sur des lieux publics, qui mettent en place des cultures vivrières, des cultures alimentaires, quoi, qui sont partagées, qui sont mis en public, quoi, qui sont données pour tout le monde, quoi. Et je pense qu'il y a une réflexion à faire comment localement nous pouvons nourrir les personnes qui sont autour de nous. Beaucoup de jeunes veulent s'installer en maraîchage, je le vois là depuis des années, quoi. Il y a des régions où c'est très difficile parce que l'urbanisme a pris le dessus et... Il y a des régions où il n'y a pas de terrain agricole, où des jeunes sont obligés de s'expatrier parce qu'ils ne peuvent pas s'installer en tant que maraîchers, quoi. Et ça, c'est vraiment très navrant, quoi. Et je pense que là, il y a une réflexion politique aussi qui doit se faire pour éviter cela. Mais il y a possibilité autour de nous. D'apporter de la nourriture saine localement autour des villes et autour des villages, quoi. Ça, c'est certain, quoi. Ouais.
Alors la nourriture, c'est vaste quand même. Bon. Il y a évidemment les produits maraîchers, mais il y a tout ce qui intervient dans le domaine de la fabrication, du pain, des choses comme ça. Quand on voit... ce qui vient de se passer, à savoir que les pays de l'Union européenne ont été incapables de s'entendre sur la cessation de l'utilisation du glyphosate, et qu'on voit tout ce qui pèse sur les suspicions de plus en plus lourdes qui pèsent sur ce produit, sur cet herbicide, est-ce que vous continuez à être optimiste, ou est-ce que vous êtes optimiste malgré tout?
Alors moi, je suis un optimiste de nature, ça c'est sûr, quoi. Ouais, c'est certain. Pour moi, je crois en la bonté humaine, et même si des fois c'est difficile à voir, quoi. Chacun, et puis nos enfants, si nous regardons nos enfants ont ce merveilleux dans les yeux et...
qui dure pas, malheureusement.
Ouais, mais si, qui dure, si, qui dure. Il suffit aussi de les aider, de le laisser vivre, ça. Et je pense que ça fait partie de notre éducation, quoi. Nous sommes là pour les aider, et on s'aperçoit. Moi, je vois autour de moi, il y a beaucoup de projets qui démarrent, qui vivent. Ou des maraîchers qui s'installent autour de petits villages, dans des villages, et qui produisent sur des petites surfaces, et qui marchent, ça marche bien. Et sur nos marchés locaux, dans nos villages, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent acheter sur les marchés. Et même s'il y a, ce forcing des magasins, des grandes surfaces pour essayer de nous faire disparaître, nous, en tant que petits paysans, on est toujours là et il y en a toujours, il y a toujours des nouveaux qui s'installent, quoi. Donc, moi, je suis toujours optimiste. Et y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui viennent me voir, et c'est pour ça que j'ai créé aussi cette association. Le bonheur est dans la graine. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent comment faire, voilà, comment créer sur mon jardin, sur ma petite surface, comment créer un jardin, comment devenir autonome alimentairement, quoi. Comment et puis des collègues maraîchers qui viennent me voir, ils me disent comment moi je peux transformer ma manière de cultiver, comment je peux la transformer d'une manière beaucoup plus saine, beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile pour moi aussi, quoi. Donc il y a vraiment de l'espoir. Moi j'ai vraiment espoir, ouais.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça c'était une question de foi? Je veux dire, vous n'avez pas l'impression que votre démarche est un petit peu comparable à celle des gens qui choisissent la vie monacale? Dit voilà, le monde est affreux, mais je vais me retirer, armé de ma foi, je vais faire mon salut dans mon petit coin.
Ah oui, ça peut être une vie monacale, oui. Quand je suis dans mon jardin, je vois personne, c'est vrai, quoi. Je suis éloigné, je suis à l'extérieur du village, là, à Loubès-Bernac, et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette vie avec les mains et les pieds dans la nature. Mais pour moi, il y a aussi ce besoin de lien. Le lien, aller vers les autres, pour moi, le fait de vendre localement, de vendre direct, c'est-à-dire aller sur les marchés, c'est pour moi ce besoin de me lier au monde, quoi. Donc, dépasser cette ascèse, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'aussi, je me suis rapproché de... Ben, en me rapprochant de la ville, c'est aussi me rapprocher des gens. Et particulièrement là d'une association qui s'appelle Pitchounet Grand, qui est à Bergerac, et voilà, qui eux aussi créent du lien. C'est une association, un café qui est dans le quartier Jean Moulin à Bergerac, dans le quartier où il n'y a que des blocs, des HLM, quoi. Hein, et cette association Pitchounet Grand est une association donc qui défend par leur charte la bienveillance de l'enfant, quoi, hein, et donc la bienveillance donc du futur, de l'espoir. On est dans l'espoir, quoi. Et moi j'ai voulu me rapprocher de cette association parce que moi aussi je travaille avec le vivant, quoi, et amener ce vivant aussi dans la ville, quoi, dans ces quartiers, quoi, c'était important. Et me retrouver avec ces personnes qui vivent dans des blocs, dans ces HLM, amener la nature, les faire venir aussi chez moi, chez des amis qui cultivent, quoi.
Servir de modèle, leur servir d'exemple.
Voilà, et c'est ce qui leur permet de, sur les terrains autour des blocs. Alors oui, c'est positif, et puis surtout, vous parliez d'espoir, et je pense que c'est ça, c'est prendre conscience qu'on n'est pas coupé de la nature, quoi. On n'est pas coupé de la nature. C'est pas parce qu'on habite au cinquième étage dans un bloc que la nature elle est toujours là et qu'on est bien quand on a les pieds dans la terre et quand on a les doigts dans la terre. Et je vois avoir fait des ateliers avec les enfants là au bas des blocs, et les enfants sont heureux d'aller fouiller, d'aller tripoter dans la terre, de mettre des plantes, des graines, c'est fantastique, quoi.
Oui, mais là ouais. vous prenez un matériau, en parlant des enfants, qui est par définition facile.
Ouais,
alors que quand on s'y joue, je lis la phrase de votre plaquette de Masunobu Fukuoka: quand nous changeons notre manière de faire pousser notre nourriture, nous changeons la société et nous changeons nos valeurs. Changer les valeurs des adultes, c'est difficile. En tout cas, Jean-Pierre, je vous remercie beaucoup de votre optimisme et de votre enthousiasme, et je vous souhaite bonne chance dans votre démarche.
Eh ben merci de m'avoir accueilli, et puis ouais, de m'avoir laissé ces temps de parole, ouais, très bon.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-Pierre.